officielle.
Officielle, avec différents rôles. Donc il y a Céline Vertonieux qui s'est déjà présentée. Et puis nous avons, je veux pas, David Olivier Lartigot qui est enseignant-chercheur sous tutelle du ministère de la Culture à l'école d'art de Saint-Étienne et de Lyon, qui est directeur, donc directeur, je ne sais pas, par contre, de l'unité de recherche. Responsable. Voilà, et moi, Javiera Tejanina, je suis artiste, et je suis docteur recherche création en art et sciences dans le laboratoire Prisme avec nos collègues ici présents. Et donc nous allons un peu échanger sur ce secteur, est-ce que déjà on pourrait parler d'une différence, une différenciation entre les arts visuels et les arts numériques.
Alors,
on avait un peu préparé et par rapport à la question des arts numériques, et je vais parler sur vos contrôles à tous les deux et à certaines de personnes qui sont dans cette salle. Moi, je vais parler à partir de ce que je suis, c'est-à-dire une opératrice culturelle sur un territoire, mais qui œuvre dans le champ des arts numériques et qui reste quand même un terme en fait institutionnel, parce que à vrai dire, par rapport à la question des arts numériques, depuis un an et demi, le ministère de la Culture a donné en fait un autre terme pour désigner ce que sont les arts numériques. Probablement que ce terme ou ce nom vient aussi d'une sorte d'imprégnation de la question des industries culturelles et créatives qu'on trouve aujourd'hui autour des politiques culturelles en France, qu'elles soient territoriales ou à partir du ministère de la Culture. Et aujourd'hui, on parle plus tant, en tout cas dans le champ des politiques culturelles, d'art numérique, de création artistique en environnement numérique, qui est un terme à partir duquel aujourd'hui va se déployer un certain nombre de politiques, et notamment existe aujourd'hui un label qui n'a évidemment pas encore la puissance de celui des SEM nationales ou des SMAC ou des différents labels, mais il existe un label qui s'appelle les pôles ressources. Là aussi c'est des noms à rallonge, et l'âge faisant j'ai de plus en plus de mal à me rappeler de tout ça. Les pôles ressources de la création artistique en environnement numérique, voilà, Javiera n'était même pas au courant, c'est assez récent, mais toujours est-il que le terme art numérique, il y en a aussi à un certain moment à ça, et tu le sais aussi très bien, Javiera et David Olivier, c'est un terme qui ne se face auquel l'ensemble des artistes qui pourtant produisent des œuvres avec du numérique, des nouvelles technologies, du digital, ne se reconnaissent pas forcément. C'est un terme aussi qui fait débat depuis 25 ans au sein du secteur des arts numériques, mais c'est, je pense quand même que quel que soit le terme qu'on nomme, il y a quand même une spécificité. Je vais donner 2-3 éléments, oui. Et peut-être que derrière vous pourrez voir si ça vous convient. Moi je pense que c'est une forme de spécificité qui tend à se normaliser peut-être aussi, et que c'est pas seulement lié à la question de l'utilisation du numérique, des nouvelles technologies ou du digital, où aujourd'hui je crois que quasiment 80% des artistes, voire 90%, si ce n'est 99,99% des artistes l'utilisent, mais c'est aussi la spécificité, c'est qu'on est dans une forme de pluridisciplinarité. On parle aussi parfois, enfin en tout cas moi j'aime bien, à l'intérieur du réseau ACNUM, qui est le réseau des arts hybrides et des cultures numériques. Donc voilà, on ne parle pas d'art numérique, on parle d'art hybride. On parle de post-disciplinarité. Donc les arts numériques, on est dans la post-disciplinarité depuis longtemps. Et ça aussi, peut-être, c'est quelque chose qui tend à se développer. Et puis on est aussi dans la question de nouvelles formes d'organisation et de place et de rôle de l'art, des artistes, de la création et des œuvres dans la société en général. Et par rapport à cette par rapport à ce sujet-là. D'ailleurs, peut-être si vous avez le temps un jour sur le site d'ACNUM, justement, qui est un réseau national qui produit des ressources, dont un guide de la création en envie des hommes pour la création d'environnement numérique. Il y a une étude qui a été réalisée par Raphaël Besson, qui est un chercheur qui est économiste et urbaniste, je crois, sur les écosystèmes des arts numériques, donc en expliquant que les arts numériques étaient organisés en écosystème et que c'était un secteur qui évoluait à partir d'encastrement. Et quand il parle d'encastrement, c'est-à-dire que c'était un secteur, et particulièrement d'un point de vue territorial, qui a des très grandes porosités, donc avec le secteur les secteurs du champ social, celui de la recherche, hein, vraiment très fortement, du tourisme, de l'économie numérique ou de l'économie tout court. Et peut-être que tout ça aussi, une des spécificités du numérique, fait aussi, et d'où une sorte de visibilité qu'on a du point de vue du ministère de la Culture par rapport à la question des industries culturelles et créatives, c'est que ça veut dire que à la fois ces spécificités plus par contre le non-encastrement dans les politiques culturelles pendant très longtemps, c'est-à-dire c'est récent que ça le soit, fait qu'on a toujours été dans une recherche d'équilibrer la question de nos modèles économiques entre les questions d'intérêt général et de rentabilité. Donc voilà, à partir d'où je parle, c'est-à-dire à la fois un événement, à la fois un réseau national, et puis le fait d'être les mains dans le cambouis d'une opératrice culturelle sur un territoire, il me semble qu'on peut dire que pour moi, les arts numériques, c'est ça.
Et David Olivier, j'aimerais bien que tu rebondisses, mais avant ça, j'aimerais bien que tu présentes la spécificité de ton unité de recherche, s'il te plaît.
Oui, merci. Merci de l'invitation. Donc effectivement, là sur le petit cartel, là, c'est pas voilà, c'est marqué que l'ESSAD, mais je suis bien au titre de l'ENS Ballion et de l'ESSAD. Et en fait, l'unité de recherche numérique, donc qui s'appelle URN, voilà, si vous voulez chercher sur Internet, vous aurez toutes les informations, c'est u-r-n-n.io. Tiré du 6, hein, U-R-N.io. Voilà, et là vous aurez toutes les activités qu'on fait. Voilà, c'est une unité de recherche qui a la chance d'être soutenue par le ministère de la Culture depuis 2017, qui a été préfigurée avant ça, enfin bon, qui a une petite, on va dire, une petite existence. En gros, depuis 2010, on est actif d'abord à Saint-Étienne, puis après à l'ENS-Ballion. Donc à Saint-Étienne, le laboratoire historique, on va dire, c'était le Random Lab. Et puis à l'ENS-Ballion, c'est le labo énervé pour numérique, réalité et virtualité. Donc ce sont des espaces en fait où on accueille des étudiants, alors de la première année jusqu'à la cinquième année. Et puis ensuite, voilà, il y a différents types de diplômes, post-diplômes qui se sont développés. Des SRA, des SRD, des co-encadrements de doctorat, et puis donc des post-diplômes. Et donc les unités de recherche permettent d'accueillir ce genre de chercheuses et chercheurs. Voilà. Et donc la spécificité de l'unité de recherche numérique, c'est de parler de numérique. Dans tout son spectre, voilà, c'est ça. Parce que l'idée, c'est que c'est pour aller vite, quoi. On dit numérique, je pense que c'est... voilà, bon, en fait, il y a toujours ce truc où, je faisais une blague hier en disant, ouais, il y a quelques années, on disait, moi je fais du numérique, alors les gens disaient, tu fais de la vidéo. Non, je fais du numérique, ah ouais, c'est quoi? Bon, non, c'est de la vidéo en fait, bon, non, c'est pas ça, bon, c'est pas grave. Après, on nous a fait, ah, tu fais du numérique, ah oui, t'es un geek, ah ouais, c'est super les geeks, machin et tout. Donc maintenant, t'es un geek, ah non, c'est pas cool, il y a Elon Musk et tout ça, quoi. Donc,
ouais. tu fais de l'intelligence artificielle.
Voilà, alors, moi en plus, l'intelligence artificielle, alors là, c'est la catastrophe. Donc c'est assez compliqué ce truc là aussi, donc je sais pas si au niveau d'ICAR il peut y avoir un travail de clarification sur tout ça qui se passe, mais en tout cas voilà, ça c'est des choses, on a toujours un peu des étiquettes qui sont collées, hein, et c'est pas toujours facile de s'en extraire, quoi, ou d'expliquer un peu clairement ce qu'on fait. Donc là, par exemple, j'échoue un peu à le faire. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de l'unité de recherche numérique? Je l'explique pas tant, parce qu'en fait on fait beaucoup de choses, et en fait le panel, il est large, c'est-à-dire que ça va de... Voilà, on a les mains dans le code, dans le cambouis, on programme même parfois à assez bas niveau. Et puis, ça va jusqu'à culture numérique très large, donc au sens où culture pop, les réseaux sociaux, etc. etc. quoi. Donc, vraiment, c'est pour ça, ça balaye tout ça, mais en fait, le champ d'intérêt, il est large, parce que, quelque part, le numérique, il a infiltré toute la société, quoi. Donc, parler de numérique maintenant, c'est quand même parler de toute la société, à peu près.
Oui. Donc, on pourrait presque être en accord avec le poste transdisciplinarité proposé par Céline.
Oui, c'est forcément c'est de l'interdisciplinarité par un angle particulier, quoi. C'est-à-dire, nous, en tant que, on a la chance, voilà, d'avoir ce terme officiel du ministère qui est unité de recherche. Alors là aussi, dans l'ICAR, il y aurait certainement un travail à faire.
Parce que. Il passait comment ?
Voilà, c'est ça. Je suis un peu là pour ça, parce que j'ai compris. Donc je vous donne des choses à faire. C'est cool. Non, parce que c'est vrai qu'il y a des écarts aussi sur. Voilà, nous on parle de labos, c'est évidemment pas les mêmes labos que les labos académiques. On parle d'unité de recherche, c'est pas les mêmes. Enfin bon, bref. Donc là aussi, il y a certainement peut-être des choses à comprendre. Je sais pas si c'est traduire ou à unifier, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses à raccorder. Ou, voilà,
tu veux dire par rapport au ministère de la Recherche ?
Bah, en fait, alors c'est toujours pareil. Là, on va pas rentrer. Moi, je veux pas rentrer dans ce genre de structure, on va dire, d'approche structurelle. Mais c'est vrai que je pense qu'entre, je sais pas, le ministère de la Culture, le MESRI, il y a des termes qui sont pas les mêmes. Et peut-être que ça clarifierait, parfois. Notamment, je pense, tout à l'heure, on parlait des ANR, enfin voilà, ce genre de choses. Oui, peut-être que ça permettrait de donner accès, ou au moins de clarifier, et de savoir où on se situe, et notamment aussi sur, comment dirais-je, les dimensions, quoi. Enfin, le dimensionnement et les échelles, aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des termes qui sont proches, mais qui ne recouvrent pas du tout les mêmes enjeux en termes de nombre de chercheurs, nombre de... Bon, bref. Mais je ne pensais pas partir sur ces sujets. Non, je...
Mais c'est très bien, parce que c'est juste, peut-être je vais rebondir sur quelque chose, tu as parlé de termes, et je trouve que ICAR, il parle beaucoup d'industrie culturelle créative, et c'est aussi un terme qu'on se demandait quelle était leur place dans notre milieu, peut-être tu peux répondre là-dessus.
Et bien sur les industries culturelles et créatives, et voilà, alors, je vois Morgiane, je fais un petit coucou à Morgiane, on a un projet aussi côté Saint-Étienne, Morgiane, donc live qui fait Pléiade à Saint-Étienne, enfin notamment qui fait Pléiade, et qui est un super qui est un festival lié au numérique, un peu comme Chronique à Saint-Étienne.
Complètement comme Chronique.
Ah non, pas complètement, une différence. Il y a des petites subtilités qui font, c'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, voilà, là aussi, le terme de ICC, il revient beaucoup. Alors j'avoue que c'est pas tout à fait faux de dire qu'on le rencontre globalement peu quand on parle... par exemple, typiquement à Saint-Étienne, on parle de design beaucoup, etc. Le terme d'ICC, il est plutôt récent dans nos pratiques. Alors, il a été assez clairement, si j'ose dire, défini. Là, on voyait qu'il y avait une sorte de schéma avec à peu près, je crois, 10 secteurs des ICC, qui sont bien et pas très clairs non plus pour nous. Parce que typiquement, nous, quand à Saint-Étienne notamment, on a une mention qui s'appelle création numérique, qui est une création design, création numérique. Et en création numérique, en fait, on fait évidemment des productions qui sont plutôt de l'ordre de ce qu'on pouvait appeler art plastique, donc de l'ordre des arts visuels, mais qui se rapprochent aussi du jeu vidéo, de la performance, etc. Donc c'est plus compliqué que ça toujours, quoi. C'est-à-dire que, voilà, si j'ose dire, on est plus dans une approche latourienne du numérique, où en fait tout est dans tout, et les couches, en fait, elles se contaminent, quoi. On est assez rarement dans des catégories complètement perméables, quoi. Mais bon, je ne veux pas mobiliser le...
Mais c'est quoi, toi, ta définition, alors, Ravira ?
Alors, pour moi, c'est vrai qu'en tant qu'artiste visuel, je me sens moins incluse dans le terme industrie culturelle et créative, je devrais dire. Même si je n'ai pas vu c'était trop loin, je n'arrivais pas à lire la définition en 10 termes, là. Mais je ne me sens pas très concernée, peut-être parce que je pense que c'est un secteur qui est... Je vois de mes collègues, c'est un secteur qui est... plus atomisé, on va dire, peut-être il y a moins de regroupements et il y a moins d'industrialisation aussi, c'est peut-être assez précaire, et c'est plus artisanal qu'industriel, je pourrais dire, en tant que système de production. Et je pense que, après moi, j'ai travaillé avec des outils numériques, bien sûr, et quand on travaille avec des outils numériques, on a forcément besoin peut-être d'un système de production un peu plus important, et avec un peu plus de soutien, donc dans ce cas-là, avec un réseau de collaborateurs beaucoup plus large, vu le besoin financier, on va dire. Et donc là, oui, je comprends, mais je pense que c'est assez différent un secteur de l'autre. Quelqu'un qui travaille avec le texte ou quelqu'un qui travaille avec des bouts de carton, peut-être c'est beaucoup moins important que quelqu'un qui va faire des réalités virtuelles aussi, je pense.
Mais on peut faire de la réalité virtuelle avec des bouts de carton.
Oui,
c'est ça aussi le truc. Non, mais c'est, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler, en fait, toujours. C'est-à-dire que c'est aussi ce caractère super du domaine de l'art, hein, et là je l'entends au sens très large, art, y compris design, on va dire, sans hiérarchie, hein, c'est pour faire un... Et c'est que ça, en fait, on peut s'emparer de tout. Et c'est pour ça aussi que dans le cadre de l'unité de recherche, on s'empare de tout, parce qu'on peut avoir une approche, par exemple, et moi je milite plutôt pour des bonnes pratiques, notamment liées à l'IA, mais on peut aussi faire des bonnes œuvres avec des pratiques pas du tout cool et horribles en IA. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le propos, quelque part. Oui. Quoi. Et ça, c'est vraiment à mettre aussi en jeu toujours. Quoi. Et c'est ce qui rend le domaine assez complexe aussi, parfois. Voilà, parce qu'on est... C'est pas si simple, on n'est jamais effectivement tout noir ou tout blanc, comme on dit. Il y a toujours des infinies nuances, on est aussi dans l'inframince, enfin bon, c'est compliqué.
Juste une phrase. En fait, je pense qu'en tant qu'artiste, c'est en fonction du projet, en fonction de la recherche de laquelle on est en train de mener, que va apparaître le besoin d'un outil technologique dans son sens large, à la fois technologique, les nouvelles technologies ou technologies de carton. Mais c'est ça, c'est le propos, comme tu dis, qui vient en amont de la création, je pense.
Voilà, c'était juste pour faire...
Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est justement aujourd'hui comment, en fait, faire coexister ce sujet de la création, en fait, artistique, au sens très large, hein. Là on aborde les questions de recherche création, mais la création artistique au global est pluridisciplinaire en France, avec que ça soit dans l'utilisation du numérique et des nouvelles technologies véritablement essentiellement, mais en fait pas que, avec cette notion d'industrie culturelle et créative, parce que je pense que la l'art, c'est quand même de venir apporter un regard sur le monde dans lequel on est, et particulièrement, en fait, un regard critique. Une des spécificités aussi, de mon point de vue, si on est sur la question des arts numériques, c'est que les artistes du champ des arts numériques, et si vous êtes allé voir l'expo, je crois que vous êtes pas mal à être allé voir l'exposition de la Biennale, apportent un regard très critique sur le monde. Là, celle-là, en l'occurrence, cette expo-là, à Aix, c'est un peu différent, mais là, on est vraiment sur une approche extrêmement critique. La thématique, c'est plaisir, mais on voit bien que produit intérieur brut, l'exposition dont le curateur est Mathieu Vab, c'est le co-directeur avec moi de la Biennale des imaginaires numériques, c'est des œuvres qui viennent raconter, parler de la marchandisation du plaisir dans un monde, un régime numérique. Or, la question des artistes qui créent pour faire des œuvres qui vont dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, de voir ou d'écouter ou de vivre dans le champ des industries culturelles et créatives, ça aussi, ça va être une vraie question qu'il va falloir se poser collectivement. Je passe mes commandes, moi aussi. Parce que, en tout cas, en ce qui concerne les industries culturelles et créatives, je sais pas trop, je suis pas certaine non plus d'avoir tout à fait compris ce que ça veut dire. Mais en tout cas, moi, en tant qu'opératrice culturelle et œuvrant dans le champ de la culture, et un de mes interlocuteurs, c'est le ministère de la Culture. Vous, probablement, que c'est beaucoup plus le ministère de la Recherche. Vous êtes plutôt en lien avec les politiques liées à l'enseignement supérieur et recherche. Mais en tout cas, il y a une chose que je peux vous dire du point de vue du ministère de la Culture, c'est faire un glissement sémantique entre le sujet du secteur culturel vers le sujet des industries culturelles et créatives, ça veut dire pour le secteur culturel, vous coûtez trop cher, il faut que vous soyez rentable. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose du côté de l'enseignement supérieur recherche, mais en tout cas, je peux vous dire que du côté de la culture, pour nous, c'est extrêmement clair, que ce soit du point de vue de l'État ou des collectivités territoriales. Donc, c'est vrai que donc arriver à s'approprier ce secteur ou ce terme, de fait, c'est aujourd'hui
dangereux.
C'est dangereux. En tout cas, c'est compliqué, c'est dangereux, et surtout, continuons à être en dialogue, quel que soit justement, parce que si on est, pour moi, les arts numériques, c'est aussi une représentation de la question du post-disciplinaire, mais passons dans le post-sectoriel aussi, ça a déjà été évoqué pas mal, parce qu'il y a quand même un sujet où il va falloir que nous fassions extrêmement attention de ce petit glissement sémantique, je pense.
Oui, et je pense que ça a à voir aussi avec, je me souviens par exemple quand on a eu la suppression de l'aide du DICREA, oui. Par exemple, qui était plutôt liée maintenant à la réalité virtuelle, au méta, oui. Et tout ça. Oui. Je pense que ça a un peu un lien aussi avec l'évolution des nouvelles technologies, peut-être.
En tout cas, ça a lieu, ça c'est lié aussi à une question de la place de la création artistique dans le champ de l'utilisation du numérique et des nouvelles technologies à des endroits beaucoup plus de l'entertainment que véritablement en effet d'une création artistique qui va voilà plus venir poser des questions, amener des ou beaucoup moins expérimentales, hein, parce que c'est un peu le sujet en effet quand le CNC qui porte pendant des années un dispositif de financement d'une création artistique pluridisciplinaire, expérimentale, qui permettra de proposer des nouvelles formes, des nouvelles écritures, des nouvelles expériences pour les publics. Disparaît au profit d'une aide qui va être plutôt amenée à financer de la VR.
Des contenus.
Ou des contenus, exactement. Exactement, c'est le passage en finance des œuvres, en finance des contenus. C'est un peu le même mouvement. Donc, c'est super si on arrive à avoir des sous parce que d'un seul coup, il faut travailler sur les questions des industries culturelles et créatives. Nous aussi, on le fait, hein, on a bien compris. Ça rejoint un peu. Ah, vous faites du numérique, vous faites ça. À une époque, il fallait parler d'innovation. Aujourd'hui, il faut parler d'ICC. Et très vite, ça permet de trouver des moyens un petit peu plus facilement. Mais voilà, ça pose, comme moi, à mon sens aussi, sur les questions de définition de porosité, ça pose un tout petit peu. Ça pose quand même la question, justement, de l'expérimentation. De la recherche pour les artistes, parce que ben, quand on est dans un secteur industriel, forcément, il faut qu'il y ait de la rentabilité. Or, quand on cherche et qu'on est un artiste, on n'est pas sûr d'être rentable au bout du bout.
Et tout à fait. Et David Olivier, non, c'est vrai que j'ai pensé à ça parce que après on discutait pendant le déjeuner sur cette aussi l'injonction actuelle sur l'AI,
ouais.
Et sur comment ouais. L'inclure dans les nouveaux contenus ou les nouvelles productions des arts numériques. Je voulais avoir un peu ton avis.
Alors là, on change un peu de champ, mais c'est. Merci d'avoir vu tout ça. C'était vraiment très. Enfin, je suis tout à fait d'accord. C'est une approche très, très bien positionnée et pragmatique, parce que c'est aussi la réalité. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que les artistes, il faut les payer. Parce que c'est vrai que. Et c'était soulevé tout à l'heure dans la petite. Dans la précédente conversation, il y a eu une petite phrase comme ça que j'ai trouvée juste, de dire qu'il n'y a pas le même non plus. C'est pas tout à fait le même dialogue au niveau confort financier entre des gens qui font de la recherche voilà, à l'université, etc., dans le cadre académique, et des artistes qui sont souvent très précaires. Quoi. Ça, il faut en avoir conscience. Donc voilà, payons les artistes, toujours.
Oui.
Alors la question, c'était sur l'intelligence artificielle. Alors moi, je trouve que c'est un domaine passionnant. Quoi. Vraiment, je suis surchaud sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'il est nécessaire, et alors, évidemment, je ne suis pas le premier à dire ça, l'Europe travaille déjà là-dessus, et ça, c'est super, sur les bonnes pratiques, hein, liées à l'intelligence artificielle. Et notamment, voilà, moi, à mon niveau, on va dire, qui est celui quand même d'essayer de transmettre des choses à des étudiants et des étudiantes, c'est de leur expliquer notamment que ben, quand on utilise, je sais pas, les IA génératifs type Midjourney et tout ça, ce qu'on fait, c'est qu'on pille le travail d'autres artistes, quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on le fait en pleine conscience? Les modèles qui servent à alimenter ces gros trucs sont en fait, voilà... Bah en fait, ils ont simplement dragué tout le fond de la tout le fond d'Internet pour récupérer tout ce qu'ils pouvaient, donc sans évidemment rémunérer quiconque. Donc là, on est sur des choses vraiment problématiques, quoi. Donc bon, ces grands modèles, on sait qu'ils sont obligés d'être entraînés de cette manière-là. Il y en a certains qui essayent de... Alors moi, c'est pour ça, par exemple, on utilise plutôt Stable Diffusion, qui est open source, voilà, et qui dont les modèles sont peut-être un peu plus propres. Mais par exemple, dans les projets, ce qu'on apprend aux étudiants, c'est à entraîner, à faire du fine-tuning sur ses propres créations pour faire du dataset personnel, et que donc, en fait, on utilise sa propre création pour créer d'autres choses via l'IA, mais sans, entre guillemets, pomper le travail d'autres artistes, quoi. Et ça, c'est des bonnes pratiques, je pense, c'est hyper important, c'est-à-dire que vraiment, le domaine de l'intelligence artificielle, il est passionnant, il n'est pas récent. Comme on sait, il y a eu les fameux hivers, etc. Bon, là, il y a eu une sorte de gros boost ces dernières années. Pareil, avec le recul, on peut se dire, bon, il y a eu aussi ça avec l'AVR, les métavers et tout. Moi, je me souviens très bien où tout était cyber dans les années 90-2000, et où il y a eu déjà des gros boosts sur l'AVR. Et puis après, voilà, après, il y a les métavers, ça s'est réeffondré, puis ça réapparaîtra sans doute, parce que c'est aussi intéressant sous certains aspects. Bref, on est toujours comme ça sur des sortes de vagues. Pour les artistes, c'est compliqué de s'emparer de ces vagues aussi, d'être au bon moment, pas simplement pour surfer dessus absolument et pour être, entre guillemets, dans le coup d'une technologie ou quoi que ce soit, mais aussi justement pour s'en emparer, pour être critique, pour éventuellement faire ou dire des choses qui sont pertinentes sur ce sujet. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Moi, je pense qu'il y a un énorme travail sur les bonnes pratiques liées à l'IA. Je pense que par contre, dire globalement l'IA, c'est OpenAI et c'est mal, c'est bien sûr trop caricatural. Parce que c'est quand même un outil formidable. Donc en fait, je pense que vraiment, il faut à l'heure actuelle apprendre, notamment aux artistes et aux étudiants artistes moi, que je fréquente, c'est comment on fait un outil. Et ça, c'est vraiment le cœur. Comment ? Parce qu'en fait, en numérique, souvent aussi on nous dit « Ah, vous faites ça, ça va remplacer des choses, quoi. » Mais en fait, non, le numérique, souvent, ça s'additionne. C'est-à-dire que ça donne une corde en plus à un arc qui existe déjà. Par exemple, je sais pas, on fait de la céramique, il y a le numérique qui arrive. C'est pas qu'il n'y a plus de céramique, mais par exemple, il peut y avoir des artistes qui vont dire tiens, je vais faire de la céramique et du numérique, c'est une corde en plus. Et avec l'IA, c'est une corde en plus, simplement il faut apprendre à servir de cette corde correctement, quoi. Voilà.
Est-ce que ça ne doit pas être un échantillon de Icar parler de ces bonnes pratiques de l'IA, par exemple?
Oui, si je réponds, il y a plusieurs projets transversaux, et une des grandes thématiques au comité de. Au dernier comité qu'on a fait à l'automne, il y a deux thématiques qui sont sorties très fortement, celle du care, du soin, de l'attention à la société, terme qui revient beaucoup depuis toutes les interventions depuis le début. Et puis l'autre thématique, c'est l'intelligence artificielle, où en fait on a travaillé par groupe et par secteur, et avec les référents, et on s'est rendu compte qu'à chaque fois ça revenait, et qu'on avait tous des questions à poser, des réponses pour une part des choses, celles que vous donnez, mais on avait aussi beaucoup de questions, et ça va être une des thématiques transversales, et le projet Harmonie, bien sûr, va aussi interroger ces questions. Ça, c'est déjà.
D'accord.
C'est super. Mais je peux même un peu vous embêter parce que le CARE et l'IA, c'est presque la même. Enfin, je veux dire, ça peut être la même chose aussi parce qu'il y a une violence liée à l'IA. Alors, on parlait tout à l'heure des effets d'annonce aussi et des effets de sidération qui sont produits pour. Mais voilà, il y a aussi un effet de violence qui est aussi un effet de violence psychologique, culturelle, etc. lié à l'IA. Et là, les artistes ont certainement un travail à faire par rapport à ça. Je ne veux pas non plus monopoliser la parole.
Non, ça va, on va bientôt clore, mais je voudrais peut-être souligner le fait qu'il y a quand même des différences entre, on va dire, les arts numériques, dits numériques, et les arts dits visuels. Il y a des recouvrements, des porosités, bon, ça on le sait, mais quand même, je pense aussi qu'il y a des artistes numériques qui vont peut-être parfois plus dans les arts visuels, et inversement, des chemins qui se baladent, comme tu me parlais... De ton unité de recherche où on parle aussi des choses très très larges. Donc il y a quand même des déplacements dans dans tout le secteur que vous coordonnez dans le projet ICAR, je pense. Mm.
Tout à fait. Il y a peut-être des questions ?
Des remarques ?
Des remarques, des suggestions, des d'autres sujets, je note tout. Mm.
Je pourrais... oui, bonjour. Je suis Paolo Almario. Je suis en résidence à Croisière et du Québec. Je suis un artiste en art numérique. Donc, qu'est-ce que ça vous dit que je fais? Je trouve ça très intéressant le sujet parce que précisément à chaque fois que je dis que je suis un artiste en art numérique, ça, il faut argumenter et dire la spécificité de ma pratique parce que c'est quand même vaste. Et je pense que dans cette réflexion, je me pose la question de la porosité. Si c'est peut-être si ça vaut la peine d'essayer de créer des nouvelles terminologies aussi, comme de créer des nouveaux parapluies, où on accepte la porosité, puis juste pour faire le pont avec le temps, là on est dans les temps 2, donc dans le premier temps, c'est quand même complexe de se dire qu'on est dans une pratique qui a de la porosité, mais dans les instances administratives, il y a toujours de la segmentation. Donc oui, je suis dans tel domaine, mais dans telle branche administrative, donc je n'ai pas accès, on disait tout à l'heure, à la recherche-création, parce que je ne suis pas un académicien. Donc si je me rapproche encore plus des universités, peut-être je veux perdre ma qualité d'artiste qui a accès au budget de la culture. Donc c'est quand même des voies difficiles à s'auto-définir, mais après les impacts administratifs, puis on a parlé de la fragilité des artistes. Donc on prend des décisions un peu stratégiques aussi là-dedans. Donc les naviguer, c'est pas nécessairement facile, surtout lorsqu'on les superpose au côté administratif. Donc voilà, petite réflexion.
Donc ça veut dire que le problème est le même au Québec.
Ah oui.
Voilà, parce qu'on se pose la question, parce que cette question de la non, je connais un peu la réponse, mais le fait que l'interdisciplinarité n'existe pas ou que les silos disciplinaires soient très puissants en France, voire les silos sectoriels et que ça soit un problème pour les artistes, en fait, ça n'est pas que en France. C'est un problème qui est un peu plus général dans le monde. Parce que parfois, on a l'impression qu'en France, c'est que chez nous, mais en fait, c'est vrai partout en réalité. Et cette question de la navigation, enfin, du fait du passage dans des artistes dans le secteur scientifique ou dans le secteur culturel est pas simple nulle part, en fait.
Je dirais que les spécificités sont propres à chaque territorialité, c'est sûr. Mais moi, ce que je remarque, au moins de mon point de vue artistique, j'enseigne aussi comme chargé de cours à l'université, c'est qu'il y a quand même la même problématique de se dire, OK, comment on fait en sorte que les choses se passent bien, puis que dans cette réflexion, ça se passe aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait?
Oui.
C'est quoi ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on le définit? Est-ce que ça vient véritablement chercher un peu partout? Et on voit, je ne sais pas où est-ce que j'ai remarqué au Québec, c'est qu'il y a des organismes qui essaient parfois de s'éloigner même de la terminologie numérique. Donc on voit art technologique à certains endroits, art médiatique à d'autres. Donc ça commence un peu à fluctuer. Puis je vous dirais, dans notre université, on reçoit parfois des étudiants qui s'inscrivent, qui viennent en cours et qui se disent, c'est quand que je vais devenir un designer graphique ici? Donc je dis, mais t'es inscrit à quoi? Un art numérique? Je veux être un graphiste. Mon Dieu, qui va dans le bureau administratif, s'il te plaît, qui va voir, parce que je pense qu'il n'était pas à la bonne place. Donc ça, je vous dirais, ça s'est attaché à la territorialité, mais la sémantique, on a la même problématique.
Et donc juste en guise de conclusion, parce que ça donne peut-être un petit élan aussi de positif, par rapport aussi à la dernière table ronde, c'est que malgré tout, donc Paolo, tu es en résidence avec Chronic dans le cadre d'un échange en effet avec le Québec, et c'est des résidences croisées de recherche pour les artistes. Donc mine de rien, c'est vrai que on arrive aussi à trouver des solutions et des programmes et des dispositifs pour permettre justement aux artistes de venir. En l'occurrence, toi, tu viens passer 2 mois à Marseille sur un projet de recherche. Et là, il y a aussi Yasmine et Driss qui, eux, sont en résidence aussi avec Chronic. Ces deux artistes marocains, eux, pareil, ils sont pendant 2 mois à Marseille sur un programme de recherche pour les artistes. Donc, on trouve quand même des solutions.
Merci.
Merci beaucoup.
Moi, je voulais faire juste une remarque pour répondre à Céline quand même sur les universitaires. Alors nous, on ne pense pas encore en lycée, on pense en discipline, c'est bien le problème. Alors on peut penser en interdisciplinarité, en pluridisciplinarité, en transdisciplinarité, mais on a encore beaucoup de mal avec le vocabulaire industrie culturelle et créative, et je l'ai vu ne serait-ce que pour préparer
cette table ronde et toute la journée, hein, où c'est pas notre vocabulaire du tout. Ça l'est quand c'est des formations dans le domaine des ICC, mais très concrètement, avec cette dimension industrialisation. Donc ça aussi, c'est un problème à résoudre. Et je me disais, en vous écoutant, c'est qu'il y a un sociologue qui parle de chute, qui parle des réalités multiples, et chaque réalité a un processus, révèle des processus cognitifs, un accent de réalité, des normes, des conventions spécifiques, et c'est bien là le problème. On les a, mais elles ne sont pas forcément superposées ou croisées, elles sont parfois parallèles, et je pense qu'une des difficultés est là. Et je voulais juste prendre un exemple qui m'est revenu en vous écoutant, qui est une annonce de stage que j'ai vue hier, qui montre quand même que les choses bougent, puisque c'est un collectif de physiciens qui font de la culture scientifique et de la vulgarisation de la physique, et qui disent « on recherche des stagiaires, vous êtes en école de design ou en école d'art, vous ne connaissez rien à la physique, mais vous avez envie de créer un projet de vulgarisation avec nous, envoyez vos CV », et je me dis « voilà, les choses sont en train de bouger, et que même du côté des sciences très dures, on serait allé chercher des structures de culture scientifique, Canopée, l'éthique des brouillards, le réseau de culture scientifique, hein. Bah voilà, ça y est, on commence à se dire, mais il y a peut-être des réponses à apporter pour la vulgarisation, pour la transmission des connaissances très scientifiques du côté des artistes et des jeunes étudiants en art.
Juste, je rebondis, mais on est encore dans cette logique à appliquer. Et ça, il faut, voilà, il faut aussi le prendre en compte. Alors, c'est très intéressant dans ce champ. Mais c'est pas que ça non plus, c'est-à-dire qu'il y a...
Complètement, on a parlé de recherche et création, complètement. Oui. Mais ça, on l'aurait pas vu il y a 5 ans,
oui, c'est
clair. Ça n'existait pas il y a 5 ans, il serait allé chercher des médiateurs scientifiques.
Oui, voilà, bien sûr.
Oui, c'est sûr. Mmh.